Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Franck Billot.
Salut.
Pascal Jacob.
Allô.
Et de notre nouvelle animatrice, Léa Laliberté.
Bonjour.
Notre thème aujourd'hui sera « Les grandes choses se font facilement ». Moi, je suis de ceux qui aiment la facilité. Je sais que dans notre société, la majorité des gens aiment travailler fort, forcer, ils aiment ça. Ils disent que quand c'est dur, c'est un défi. Et moi, je ne suis pas dans cette école. Je crois que les grandes choses se font facilement parce que quand tu es en harmonie, il n'y a pas de résistance. Ou il y en a beaucoup moins que quand tu sors de ta voie.
Plus exactement, en fait, les difficultés qui apparaissent ont beaucoup moins d'importance. Puisque de toute façon, comme tu es aligné, ça va se placer de telle façon pour qu'elles soient désintégrées ou contournées ou devenue complètement insignifiante.
Bien,
donc
c'est
en fait,
comme...
c'est pas très grave le niveau de difficulté. Le truc, c'est qu'une fois que tu es bien aligné, après, qu'importe ce que tu as en face, de toute façon, tu y vas, quoi.
Mais tu viens de dire un mot « aligné ». C'est vrai, hein? Quand tu es aligné, on dirait que les choses vont bien.
c'est
comme une auto qui est bien alignée, elle roule bien. C'est vrai, quand tu es centré et que tu es aligné, les choses viennent seules aussi, je trouve.
C'est vrai, quand on a une voiture qui est un citron, c'est du début à la fin, quoi.
Tu parles par expérience?
Par expérience, oui.
Je partage, partage et je confirme.
Bon, l'exemple que je voulais donner, c'est un peu comme si, disons, ta voix, c'est l'autoroute qui est bien pavée, pas de trous, rien. Puis quand tu commences à aller sur le côté, sur des petites routes avec des trous, etc., puis ça devient plus difficile pour l'auto, ça use. Et pour moi, c'est ça l'exemple. C'est-à-dire que quand tu es dans ta voie, c'est facile. Moi, j'ai toujours été dans ma voie. Fait que ça n'a jamais été... C'est sûr qu'on s'use sur la terre, parce que ça fait partie du jeu, mais je m'use beaucoup moins que tous ces gens qui ne sont pas au bon endroit au bon moment.
Je trouve que l'exemple qui a été pris par rapport à la voiture est merveilleusement bien représentatif. La voiture étant le symbole du déplacement, du mouvement, de l'action. Et c'est vraiment, donc il n'y a pas plus matérialiste que la voiture, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment un symbole de pouvoir, c'est un symbole qui va montrer à quelle classe sociale tu appartiens. On n'a plus une voiture parce que tu as besoin de te déplacer, tu as une voiture pour montrer ton statut social. Et donc c'est intéressant quand une voiture merde, mais vraiment quand tu commences à avoir un problème mécanique, après ça n'en finit plus. Et en fait, je trouve que c'est une représentation symbolique assez forte de qui on est d'une certaine façon, parce que ça se répercute et c'est comme un espèce d'effet miroir. C'est un effet miroir de les problèmes que l'on peut avec la voiture, c'est peut-être la représentation symbolique d'autres problèmes que l'on peut avoir dans la vie. Je parle de ça par rapport à ma propre expérience, après je sais pas pour les autres, mais je sais que quand tu peux être par exemple inquiet, insécure ou anxieux, ça a des répercussions. Et comme par hasard, je sais pas, tu vas avoir ta voiture qui brûle, ça m'est arrivé. elle est réparée et après tu as une succession d'emmerdes innommables. Donc
c'est ça quoi.
Voilà.
Pour continuer avec ce que tu viens de dire, je pense que c'est vrai que ça représente bien, mais dès que tu as un pépin avec l'auto, c'est le début de d'autres pépins.
C'est ce que j'allais dire.
C'est le début de d'autres.
Il y a
tout. Donc, c'est comme ça dans la vie aussi. Dès que quelque chose ne marche pas, il faut le régler tout de suite.
Il faut apprendre, je crois, à lâcher prise rendu là.
Ouais, c'est vrai. Hein?
C'est absolument vrai. Parce que si on arrive à... On continue à dire, on va réparer, on va se racheter un autre iPhone, on va... par expérience personnelle, eh bien là, c'est mieux de lâcher prise. Et comme ça, on dirait que la voie, elle s'ouvre à nouveau.
Oui, mais c'est, dans la vie, il y a tellement d'imprévus que ces imprévus-là te font changer de voie par de force.
Ouais, il faut
force.
Ouais.
C'est comme conduire sur l'autoroute. Si la voie est fermée, là. Tu peux pas. Faut que tu changes de voie.
C'est un non catégorique. Mais c'est un choix.
C'est un choix.
Là, c'est sûr que.
C'est beaucoup plus simple. Puis pour rester dans sa voie personnelle, il faut vraiment que tu aies une force de confiance très, très forte. Il faut que ce soit élevé parce qu'il y aura beaucoup d'attractions externes qui vont vouloir te faire sortir et dévier.
C'est battu.
C'est ça. Il faut que tu sois centré beaucoup, beaucoup. Et encore là, moi, j'y vais toujours à long terme. Est-ce que ça va me servir d'être tout le temps aligné? À un moment donné, il faut que je trébuche pour savoir jusqu'où que je peux aller.
À long terme. Tout à fait.
Exemple, admettons que, bon, demain, tout va bien. Là. Je conduis sur la route, tout va très bien. Là. Mais je parle pas juste sur la route, je parle dans la vie.
Oui.
J'ai un pépin. Il faut que je le règle. Mais si je fais rien, exemple, dans 5 à 8 mois, là,
okay.
Qu'est-ce que ça va me donner si
comme
je règle rien?
Comme répercussion à la non-action.
Mais il faut que tu trébuches dans la vie. Si tu trébuches pas, tu apprends pas.
C'est la façon de se relever qui montre le caractère de qui tu es.
C'est ça. Puis quelqu'un qui n'a jamais trébuché ou qui n'a jamais changé de voie connaît que ça. Donc, les accrochages de vie, c'est difficile pour ces gens, ce genre de personnes-là.
Il n'y en a probablement pas. Moi, je peux dire que je suis cette personne dont tu parles. Moi, ça a toujours été une voie. Par exemple, j'ai jamais tombé. Ma mère m'a dit que quand j'ai appris à marcher, moi, j'ai pas rampé comme la majorité des gens. J'ai regardé les adultes, j'ai compris intellectuellement, je me suis levé, j'ai marché. C'est ce que je suis en train de dire, moi, c'est que t'es pas obligé de te faire mal, de tomber. Si tu tombes, c'est parce que tu t'es pas servi de tes pouvoirs. T'as des pouvoirs de clairvoyance, des dons. Ces dons-là sont là pour une raison. C'est de nous aider à ne pas planter, à ne pas se faire tasser sur le côté. Puis il y a une différence entre se faire tasser sur le côté de la rue puis finalement sortir du chemin totalement. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés sont totalement à côté de la traque, là. À 40 ans,
dans
50 ans, c'est critique. Quelqu'un que ça fait 30 ans, 40 ans qui est sorti de sa voie, cette personne-là est vraiment dans un mauvais état.
Mm-hmm.
Et c'est là que c'est difficile. Parce que t'es pas au bon endroit, tu fais pas la bonne chose. Combien de fois que moi, on m'a dit de pas être artiste, j'ai envoyé promener tout le monde, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Ce que j'ai fait pour être la chose la plus difficile pour quelqu'un qui est pas à sa place. J'ai été sur l'aide sociale pendant près de 8 ans.
Comme tous les artistes.
C'est ça, ça aurait pu être extrêmement difficile, mais pour moi, c'était d'une facilité incroyable. Je recevais tout ce dont j'avais besoin, j'avais des amis qui m'aidaient, j'avais tout. Alors qu'il y a plein de gens qui sont sur l'aide sociale qui ont de la misère.
Justement, ça me rappelle que quelques jours avant que je voie le thème de l'émission, j'avais besoin d'un bureau pour écrire. J'ai envie d'écrire, mais juste un petit bureau. Et là, je sors de chez moi, comme tout le monde. C'est le printemps, le monde sort, les meubles aussi. C'était pas très beau, c'était un meuble en mélamine qui est, je passe devant, je dis, bon, c'est peut-être ça, mais je suis pas certaine. Et là, je reviens, et il y a 3 artistes autour qui sont en train de faire une œuvre d'art avec. Et ils ont écrit « Petit deviendra grand ». Et là, j'ai dit, mais attends, mais c'est pour moi, ça. Ça va avec. Là, je regarde, parce que, bon, je suis dyslexique. Alors, le grand, petit, chose, facile, pas facile, c'était tout mêlé. Je me suis dit, waouh. Et ça va un peu dans le sens que, bon, t'as besoin de quelque chose, t'avances, et ça va venir sur ta route quand...
Faut croire à l'opérationnalité du miracle. Faut croire à soi. Moi, ça a toujours été quelque chose de normal. Mais... c'est parce que pour moi, la facilité, on dirait que ça a toujours été là. Quand j'étais jeune, je travaillais pas vraiment. Mes parents ne m'obligeaient pas à travailler. Par contre, ma soeur travaillait dans un supermarché. Elle travaillait fort. Elle voulait sortir. Fait qu'elle payait beaucoup de choses. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de faire de la bande dessinée chez moi. Ça me coûtait rien. J'avais pas de dépenses, donc je travaillais pas. Et puis, j'ai jamais travaillé vraiment à part dans les quelques dernières années, là, les 3 dernières années où là, j'ai décidé que je voulais tenter l'expérience. Mais je le fais dans la facilité. Moi, je travaille chez moi, par exemple. C'est facile. Je me lève le matin,
j'ai mes chats, je fais mes exercices, je m'assieds sur mon divan. Souvent, ma compagne est là aussi. On fait l'amour, on prend des breaks, on fait l'amour. Je suis au paradis. Je comprends pas tous ces gens qui se lèvent le matin, c'est à 5 heures du matin, ils prennent leur auto, ils vont 2 heures dans le trafic. Pourquoi c'est difficile alors que ces gens pourraient utiliser leur intelligence et travailler chez eux? Ou le plus près possible de leur centre.
Faire de petites micro-entreprises.
Des PME.
Des PME.
Mais
c'est de plus en plus comme ça. Les jeunes de notre société, plus jeunes que nous, dans la vingtaine, ont envie de travailler à leur compte comme ça. Ont vu leurs parents, justement, pour être capables d'arriver avec deux boulots, avec les enfants, avec et les divorces et tout ça. Donc, je pense que...
Bien, on va faire une pause musicale avec une chanson de Olympe qui s'appelle « C'est facile ». Puis on revient après la pause avec ce thème « Les grandes choses se font facilement ».
Savoir ce qu'on veut, jamais mentir, pas se prendre au sérieux, sortir de sa bulle, briller de mille feux, jamais trahir, au fil du jeu c'est facile.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Les grandes choses se font facilement ». Une chose que moi je remarque qui amène la facilité, c'est l'intelligence. Plus on est intelligent, plus on se rend les choses faciles. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de se favoriser. Pour moi, l'intelligence n'est pas seulement l'intelligence intellectuelle. On sait bien qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui n'ont pas de femme dans leur vie, que c'est difficile. Pour moi, l'intelligence est globale, je l'ai souvent dit. L'intelligence, la vraie intelligence, elle est totale. Donc, si on mettait plus d'intelligence dans notre société, je crois que ça serait plus facile. Mais bien sûr, les gouvernements, l'État, l'Église nous amènent depuis notre enfance à ne pas être intelligents.
c'est un individu, au contraire, de, justement, de renverser la tendance et de se réapproprier son propre pouvoir, de telle manière qu'on soit beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on a mis de côté pendant tellement de siècles, si ce n'est pas des millénaires, c'est-à-dire sa sensibilité. Peut-être même que ça prendrait de se rapprocher, enfin en tout cas pour l'homme, hein, peut-être se rapprocher plus de la femme. Quand je dis de la femme, c'est dans le sens de la sensibilité féminine et de l'intuition et de l'émotionnel. À condition toutefois de ne pas se laisser embarquer par ça, mais plutôt de se servir de notre capacité à ressentir pour justement utiliser ces ressentis en termes d'information pour savoir si, tiens, justement, si est-ce qu'on est bien aligné, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, tiens, pourquoi je ressens ça. C'est pas d'être dans un dialogue infini et puis de se poser des questions à longueur de temps, mais c'est plutôt d'arriver à aller chercher justement cet alignement dans la facilité, c'est-à-dire que plus on est sensible et plus on s'écoute soi, quand je dis s'écouter, hein, c'est pas écouter sa petite voix qui te dit c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, mais plutôt d'écouter nos ressentis qui sont un petit peu des fois cachés dans les aux entournures là, et de faire en sorte que, en fait, ça devrait être même une priorité humaine, de savoir est-ce que je suis bien aligné avec... avec ce que je fais, avec ce que je veux, est-ce que je suis bien dans ce que je fais. Et de toute façon, la réponse à ça, ça va être, si tout se met en place, c'est parfait. Puis même s'il y a des difficultés, au final, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça t'allume tellement de le faire, le truc, qu'au final, la difficulté, c'est plus une difficulté, c'est juste une opportunité d'avancer ou de se perfectionner ou autre.
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, parce que... Quand le cerveau, je vais dire empoté par, je pense, tout ce qu'on a d'académique, l'université, le cégep, le système, bon, tout ça, à un moment donné, l'intelligence émotionnelle en prend un coup. Et c'est là que les hommes et les femmes sont plus, je crois, sur la même longueur d'onde. Ce qui fait des blocages et... Ouais.
Des incompréhensions.
Ouais, des incompréhensions.
Qui n'ont pas lieu d'être, en plus.
Les ressentis, c'est vrai que c'est important. Ce que tu ressens au moment présent, c'est la genre de boule d'énergie, là. Ce que tu ressens, c'est ce qui va activer ton intelligence dans les choix que tu vas faire. Et c'est même vital, même, je dirais. Parce que des fois, il y a des gens qui ont cette boule d'énergie-là, mais c'est la peur de savoir... Le choix que je vais prendre, là, est-ce que ça va m'avantager ou pas? Moi, c'était ma crainte en grandissant. Quand je fais un choix, il faut que je m'assure que ça me sert à moi, tu sais. Puis j'en ai blessé plusieurs, mais regarde.
Je retiens ça depuis tout à l'heure, de se servir. Je trouve ça intéressant.
Oui, tu sais, c'est juste que... j'ai grandi comme ça. Ma mère, elle m'a toujours dit des fois dans la vie, regarde... Tu vas sacrifier certains amis pour ton bonheur, parce que tu n'as pas vraiment le choix, sinon tu vas être malheureuse.
Et est-ce que c'est une question de mentalité?
Je ne sais pas, mais peut-être, parce que j'ai grandi sans papa. Fait que ma maman était tout le temps derrière nous pour nous dire dans la vie, là, faites des choix qui vont te servir. Non.
Ma mère, même chose pour moi. Ma mère, elle me dit, sois égoïste.
Oui.
Ça, c'est le côté négatif de dire la chose. Hein. Alors, j'aime bien.
Je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'on le prend très très mal, l'aspect de l'égoïsme. C'est-à-dire que l'égoïsme, dans notre société, c'est ne penser qu'à soi, mais dans le mauvais chose, dans le mauvais aspect des choses. C'est-à-dire penser qu'à soi, c'est-à-dire si je suis dans une équipe, je pense qu'à ma gueule, j'en ai rien à faire des conséquences des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. C'est souvent plus alimenté par la peur, parce que comme on a peur de ci ou de ça, du coup on se replie sur notre bien-être à nous qu'il faut absolument préserver. Et donc cet égoïsme là qui est mal compris, donc du coup ça ferme la porte à, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, un égoïsme sain qui est même salutaire, qui est de penser à soi, mais de façon...
Tu devrais utiliser le vrai mot qui s'appelle la centration, parce que l'égoïsme demeure quelque chose de malade. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu te centres sur ta personne, alors que la centration... Ta mère avait probablement pas le bon mot.
Elle me dit, pense à toi.
Et c'est ça, pour moi, l'intelligence, c'est-à-dire que si on utilise mal les mots, on enseigne mal à nos enfants. Moi, je pense que si les adultes étaient forcés de philosopher, d'apprendre à parler, ils ne diraient pas ce genre de choses-là à des enfants. Par exemple, ta mère, en te disant ça, elle t'a mis dans une situation bizarre, alors que si elle savait ce mot, la centration, si elle savait c'est quoi, seulement, quand on est centré, on peut entendre vraiment ce que nos intuitions nous donnent. Par exemple, j'ai une anecdote, j'en ai beaucoup dans ce style-là dans ma vie, mais il y a près de 10 ans, j'habitais près du pont sur Ontario, au coin de Lorimie. C'était vraiment rock and roll, puis j'avais un voisin qui était vraiment, il était violent, là, je m'avais fait des menaces, puis ça chiait, comme on dit ici au Québec. Puis là, j'étais tanné. Alors, cette journée-là, je dis à ma compagne, je pense qu'on devrait déménager. Il a dit, ah oui, je suis d'accord. 3 heures après, il y a quelqu'un qui arrive en arrière, qui passe par en arrière, qui cogne à notre porte. C'est un gars de la ville. Il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, là, on va vous exproprier. Mais faites-vous en pas, on va vous donner, vous allez recevoir de l'argent en récompense là, pour déménager. Fait que, tu vois, pour moi, c'était la journée même. Cette journée-là, on avait décidé, et bang! Et voilà cet homme qui... Et finalement, on a eu 3 000 $. 3 000 $ pour déménager.
Pour déménager.
Et ça a été d'une facilité incroyable. On est allé voir un appartement. Finalement, je ne le voulais pas. En m'en allant, je chialais tout haut. Puis l'homme à côté, qui avait l'appartement à côté, m'a vu. Puis il est venu me voir. Puis lui, il m'a tout de suite... Il l'a senti. Puis ça a été facile. On a trouvé un appart comme ça. Mais j'étais en harmonie, j'étais dans...
Voilà.
Ça, c'est une grande chose, déménager, mais si tu le fais pas au bon moment, au bon endroit, c'est que c'est dur.
Parce que, et je vais répondre à ça parce que j'ai déménagé souvent entre la France ici, et justement, quand on est aligné, moi, avant de partir à Paris une fois, sur de Lorimier et Coin-Mont-Royal, il y avait un loft, super beau loft, et je me suis dit, je suis mieux de le louer avant d'aller en France, parce que quand je vais revenir, il sera plus là, c'est sûr. Puis je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, si je reviens, et là, c'est parce que vraiment, il était pour moi. Et effectivement, il était encore à louer. Pourtant, il était magnifique. Il n'y avait rien de... Et c'est 3 mois, là. 3 mois plus tard. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas eu de visite. Et la preuve, le contraire, c'est quand on est mal aligné, là, il n'y a que des bagatelles qui se passent, des merdes, finalement.
Et c'est ça. Il faut apprendre... À jouer contre la loi générale qui veut que ça soit difficile, parce que on est dans une société chrétienne, et le christianisme amène il faut que ça soit difficile, il faut mériter, hein, cette idée de l'expiation, il faut mériter le paradis.
Le sacrifice.
Pour moi, tout sacrifice est vain. Je ne vais pas me sacrifier pour quoi que ce soit, je ne vais pas choisir, je vais tout prendre. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est normal, parce que en tant que créateur, je fais mes plus belles œuvres dans la facilité. Moi, je suis pas le genre de thérapie là, où je mets ma merde sur mes toiles ou dans mes chansons qui vont agresser les gens, finalement. Moi, j'ai compris qu'un vrai artiste est conscient de sa vibration et qui augmente les gens qui l'écoutent. C'est une manière de donner de la lumière aux gens. Donc, pour moi, ça fait partie de cette facilité. Quand c'est difficile... Je me pose les bonnes questions. J'ai fait de la musique, par exemple, un certain temps. C'était difficile. À la fin, j'étais chansonnier. Je faisais tout seul. J'avais aucune aide. J'avais aucun appui. Donc, c'est devenu tellement difficile que j'ai dit, bon, qu'est-ce que moi, je veux faire? Et finalement, je me suis dit, bon, je suis un artiste. Je suis plutôt un BDiste, un écrivain. Donc, ce que je veux faire, c'est des livres. Alors, j'ai arrêté de faire de la musique. Et j'ai commencé à écrire. Et puis, pour moi, c'est facile. Donc, je suis toujours dans la facilité. J'ai pas forcé. Quelqu'un d'autre avec un ego, un gros ego, aurait dit, ah non, je veux forcer, je veux devenir une superstar. Je m'en fous d'être une superstar ou pas. C'était là pour le plaisir.
Pareil ici. Mais c'est bien d'être... Moi, je pense que toute personne peut être une star. OK? On est toute la star de quelqu'un. Que ce soit notre chum, notre famille, le boucher du coin peut être ma vedette parce qu'il fait le meilleur steak, pour moi. Alors, l'ego, on parle, c'est important de la laisser de côté dans sa vie pour avoir le bon chemin à suivre.
Puis on va faire une pause musicale sur ce avec une chanson de Eddie Mitchell qui s'appelle « C'est facile ». En fait, toutes les chansons aujourd'hui s'appellent « C'est facile ». Alors, pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, on vous invite à venir écouter l'émission en podcast sur proposurlebonheur.com. Pour les auditeurs de Radio H2O ou ceux qui viennent en podcast, restez après la pause, nous continuons l'émission.
C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile, d'être amoureux tout le temps. C'est facile, de le dire à tout moment. Mais le faire est parfois plutôt fatigant. C'est facile, d'aller l'emmener danser. C'est facile, et puis la raccompagner. C'est facile, un dernier verre dans sa chambre. Mais la suite est parfois tellement fatigante. Pourtant, un jour tu viendras. Et là, je t'ouvrirai les bras moi. Et toi, tu t'y flottiras. Et cette fois tu sais je ne m'échapperai pas. C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile, d'être amoureux tout le temps. C'est facile, de le dire à tout moment. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile, d'être amoureux tout le temps. C'est facile, de le dire à tout moment. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile, d'être amoureux tout le temps. C'est facile, de le dire à tout moment. C'est facile, d'être amoureux tout le temps.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est les grandes choses se font facilement. Moi, il y a une phrase qui me revient toujours dans la tête, c'est « follow your bliss ». Ça vient de l'anglais. Hein. Suis ton nirvana ou suis ta jouissance. Et pour moi, c'est important parce que je trouve que ceux pour qui c'est difficile, c'est qu'ils ne suivent pas leur orgasme, si on peut dire, là, ce qui les fait jouir, ce qui les rend heureux. Ils vont faire des choses pour faire plaisir aux autres. Ils vont choisir un métier pour faire plaisir aux autres ou pour avoir une stabilité ou parce qu'ils se font pousser sur le côté. Tu vois, t'en parlais, Pascal, beaucoup de gens, je trouve que la majorité des gens vont se faire tasser par ce que les autres veulent. C'est souvent les pires, c'est la famille, hein? les parents ou les gens qu'on aime avec leurs exigences et tout. Mais en bout de ligne, quelqu'un qui renonce comme ça, c'est lui qui va en souffrir. C'est lui qui va, au bout des années qui s'accumulent, trouver ça de plus en plus difficile. Et, bon, les gens meurent de crise cardiaque, les gens meurent d'épuisement. Pour moi, c'est pas un idéal.
Quand tu as envoyé le thème, j'ai fait « Oh my God! » J'étais au travail et j'ai dit « Oh mon Dieu! » Ouais. Parce que je suis dans un environnement où est-ce que l'acharnement du travail, c'est vital. Donc, tout ce qui est facile sera comme, si c'est facile, c'est parce que t'es lazy. C'est vraiment ça. T'es paresseux. Pour eux autres, c'est vraiment ça. Fait que j'étais, oh boy, comment je vais faire pour... Moi, j'ai jamais connu ça, les choses faciles. J'ai toujours bûché pour avoir qu'est-ce que moi je veux. Donc, facile, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais expliquer ça? Puis finalement, oui, j'ai toujours eu des amours faciles. J'ai eu deux hommes dans ma vie, puis ça a été très facile.
Wow.
Ah ouais, j'ai pas eu besoin de croiser personne. Ils sont venus vers moi, puis that's it. Puis ça fait 15 ans que je suis avec. Là, il n'y a rien de... Ça, je dis ça pour oui, ça a été très facile. Même que à tous les jours, c'est facile. On chicane très rarement. On a une très belle communication. C'est sûr que lui, il est beaucoup plus grounded là, que moi. Là. Lui, il croit pas en ça. Là. Lui, c'est philo de la philo. Puis, non, lui, ça lui dit que dalle. Là. Il est très rationnel. Donc, pour lui, c'est
en
comme...
côté féminin, non?
Non, vraiment pas. Okay. Même, c'est vrai, il est très, très, très viril, lui.
Macho.
Il est comme... Ah ouais, vraiment. Il écoutait son match de hockey, puis il est comme... C'est ça, un homme, Pascal.
Ouais.
C'est OK, c'est correct. Écoute ton hockey, là.
Deux hommes comme ça que tu as eu?
Ouais.
Deux hommes qui écoutent le hockey.
Ouais,
qui...
sont très, très,
finalement,
très virils.
Peut-être mieux mes amants.
Ils sont très virils. Donc... Mais par exemple, j'ai eu des relations faciles. Mon ex, on a cassé pas parce qu'on ne s'aimait plus, parce que tout ce qui nous entourait nous faisait qu'on ne pouvait pas être ensemble. Donc, j'ai dit, garde.
Il y a une force...
Au-delà
qui est ça.
Et j'ai pas voulu forcer. J'ai dit, garde, sois heureux, puis vis ta vie.
Je pense que chacun a dans sa vie un domaine de prédilection, un domaine pour lequel c'est facile, il n'y a même pas de questions à se poser.
Ouais.
Moi, c'est pareil que toi, sauf que c'est pas dans le domaine amoureux, c'est dans le domaine amical. Mais ça a été une bénédiction, depuis que je suis né, ça a été une bénédiction. J'ai pas eu à forcer, ça se place. C'est naturel, alors qu'il y a des domaines où là, on retrouche les manches et on attaque la butte.
C'est vraiment, hein, j'ai des collègues de travail, on dirait que tout est facile. Les amours, le travail, la santé, tout est facile, jusqu'à ce que je remarque que, il est complexé. Je me sens grosse, ça. Je dis, regarde.
C'est souvent de la parure.
C'est
parce que les gens vivent à l'intérieur de leur maison. On n'est pas là.
Et puis ça, c'est une phrase que ma mère me disait tout le temps. Ne te fie jamais à ce que tu vois. Tu sais pas qu'est-ce que les gens vivent.
Je l'aime bien, ta mère aussi.
C'est pas qu'est-ce que les gens vivent.
Sont pas mal, hein?
Elle dit, je sais pas aux apparences. Tu sais, parce que ma maman, elle a jamais conduit de sa vie. Elle a toujours eu peur parce que mon papa est mort d'un accident d'auto. Puis depuis ce temps-là, elle n'a jamais conduit. Puis elle me disait tout le temps, je refuse de conduire et je n'envie pas les gens. Elle a toujours pris l'autobus, elle n'a jamais chialé pour ça. Jamais, jusqu'à présent, là, ça ne dérange même pas. Moi, je suis l'inverse. Je me vois pas. J'ai toujours affronté mes peurs. J'ai eu deux accidents de route, puis le lendemain, j'étais encore au volant. Je dis non.
Mais tu sais, je pense qu'en bout de ligne, il faut assumer ses croyances. Par exemple, il y a Gurdjieff, qui est un grand maître. Lui, il prônait l'effort. Il avait conçu une technique d'éveil qui travaillait beaucoup sur l'effort. Il faisait travailler les gens très, très fort. Il faisait pelleter. Il était surépuisé. Et dans ce surépuisement, il y avait l'être qui se manifestait. C'était une méthode. Mais lui, il est mort assez jeune, 60, 65. Il est mort d'épuisement. Et puis, finalement, ça l'a raté son coup parce qu'il s'est vidé. Moi, je pense que si on fait ça facilement, on peut très bien vivre longtemps. Bon, par exemple, ma grand-mère a 99 ans, là. Elle est encore en appartement, elle est encore indépendante. Je sais que c'est possible dans ma famille. Donc, si je prends les choses relax, je vais être un vieux relax et je vais être un vieux en santé. Alors que si je me stresse la vie, je travaille fort, moi, les 40 heures semaine dans un domaine qui m'énerve, ça ne m'a jamais branché. C'est jamais arrivé. Je travaille très peu, je travaille le moins possible. Parce qu'on sait bien que plus on travaille, moins on est intelligent. Les grands maîtres du monde, qui sont des milliardaires, travaillent pas plus de 10% du temps. Ils délèguent. L'intelligence est capable de déléguer, faire travailler les autres à notre place.
Oui, par contre, ils utilisent les efforts au début dans la mise en place de leur projet.
Exactement.
Parce que ça, tu peux pas.
On balaye le plancher au départ.
Exactement.
Ouais. Après ça,
pas nécessairement. quand je te dis les grandes choses, il y a pour certains, si tu penses à Pelado, ça n'a pas, pas été difficile. Quand tu l'as dit tantôt, quand tu es de haut, on a tous quelque chose en quoi on est très bon. C'est juste que les gens souvent ne le reconnaissent pas. Si tu reconnais ce en quoi tu es excellent, et que tu excelles, et tu y vas, tu follow your bliss, ça va être facile. Mais si tu hésites, si tu ne te fais pas confiance, c'est là que ça devient difficile parce que moi, je connais des gens qui sont médiums, mais ils ne se font pas confiance. Ils vont rencontrer d'autres médiums pour leur dire quoi faire, mais des médiums moins intelligents, donc moins en mesure de leur dire les bonnes choses. Il y a toujours une traduction qui est faite par quelqu'un qui est moins intelligent. Par exemple, moi, je ne vais pas voir les médiums. Je les laisse venir à moi et quand ils ont un message, ils me le disent, mais je ne vais pas payer quelqu'un qui va interférer finalement parce qu'il ne comprendra pas ma complexité. Et ça, c'est un grand danger.
Et tu crois qu'on peut comprendre sa propre complexité quand on est voyant, médium, ou qu'on arrive à toucher vraiment l'essence d'avoir des vraies visions pour nous-mêmes?
Ben oui. C'est souvent, ça te fait peut-être peur parce que tu vas commencer à voir plus clair, mais c'est l'essence même. Avant d'aider les autres, tu dois t'aider toi-même.
Oui.
Donc, c'est la base. C'est la base pour moi. Si tu n'es pas capable de le faire pour toi...
Dit comme ça, oui, ça marche.
Et puis, moi, je le fais dans ma vie. Je l'ai développé, je l'ai poussé à son maximum. Et si tu n'es pas capable de bien voir, puis tu es entouré de médiums, les gens, ils vont venir te le dire de toute façon. Moi, je suis entouré. Tous mes clients sont des médiums. Bon, ici, dans la salle, il y en a déjà trois. Je veux dire...
Donc, il faut s'écouter.
Il
faut s'écouter. Donc, l'intuition...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas se dire, oula, je vais tendre l'oreille. Puis... Non, c'est...
Je vais entendre des voix.
Voilà.
Jésus va me parler.
Ben, dans ton cas, ça serait pas d'écouter, ça serait de faire confiance.
De faire confiance à la petite voix.
Tu l'entends, ta voix.
Ah oui. C'est pour ça que je suis là.
Il y a du lâcher-prise aussi avec ça. Il y a vraiment du lâcher-prise. En fait, c'est assez... Comment dire... assez quantique parce que tu fais comme un saut, tu sais pas trop où tu mets le pied, mais tu sais pas où tu y vas, mais tu y vas et tu es sûr que tu y vas. Voilà. En fait, c'est ça. Sans savoir exactement est-ce que c'est plutôt à droite.
Et ça, ça peut
gauche.
Être très excitant aussi. Mais si on arrive à prendre comme une aventure.
Heureusement.
Je dis tout le temps qu'on ne va jamais aussi loin quand on ne sait pas
où l'on va. Christophe Colomb.
On
a la même adage.
Je ne sais pas combien de fois que je me suis perdue. Puis après ça, c'est. Hein, j'ai rencontré des gens fantastiques qui m'ont fait entrer dans un domaine, puis après ça, j'ai comme bâti un arbre tout seul. Tu sais, c'est vraiment... J'ai jamais été tout le temps centrée dans ce que moi, je voulais.
C'était vraiment la phrase à Christophe Colomb, ça. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va.
Je pense que c'est incroyable. Parce que sinon, il devait aller en Inde.
J'avais, moi, une petite photo là, avec cet adage-là dessus. J'ai voyagé avec ça pendant des années. Tu me dis ça, là, moi.
C'est vrai. j'ai connu beaucoup de gens qui étaient tellement centrés. Mm. On s'est perdu pendant plus de 10 ans. On s'est perdu de vue. Récemment, j'en ai revu 2-3. Leur vie est tellement banale. Je dis, hein?
Non, c'est
t'es rendu là. Ah, OK. Pourtant, t'étais tellement centré.
Exactement, moi aussi ça m'est arrivé.
Il dit ah ok, et pourtant il me dit ah, Pascal, tu as travaillé là. Je dis oui, mais je vis bien moi, je n'ai pas de dette, je dors bien. Donc j'ai dit pourtant tu étais tellement centré, tu es rendu là. Je trouve ça bizarre.
Qu'est-ce qui explique ça dans
centré dans le sens du mot centré, il était égoïste dans le sens où il était centré sur sa personne,
sur ses besoins,
sur ses peurs. Mais s'il était à l'écoute, parce que moi, je vois très loin devant moi. J'ai aucune hésitation chez les livres que je vais écrire dans les prochaines années. Je sais comment ma vie va se dérouler jusqu'à la fin. Donc, pour moi, c'est clair, c'est facile. Je sais très bien que quand quelqu'un veut me faire sortir de ma voie, je le sens tout de suite, tu sais, parce que c'est pas ma voie. J'ai tout qui me rappelle à ma voie parce que j'aime la facilité. Puis, quand je parle des grandes choses, c'est les vraies grandes choses. Mettons, tu as un grand projet. Vous avez tous eu des projets dans votre vie où ça a été super facile.
Ouais.
Et c'est là qu'on est. On est dans l'instant présent. On est à l'écoute. Il y a une intuition. Moi, c'est fort parce que je le vis presque à tous les jours. Quand je fais des sites web, quand je fais de la création, il y a un appel et je me lance. Et puis, il y a un orgasme. Et puis...
intellectuel.
Non, c'est, dans mon cas, ça, c'est très orgasmique à tous les niveaux. Là. C'est extatique, si on pourrait dire. C'est une grande jouissance de faire ce que je fais, puis finalement d'exceller dans ce que je fais, parce qu'avec le temps, j'ai poussé au maximum mes capacités, puis là, j'en suis à un point où vraiment je jouis de ce que je suis, de mes pouvoirs mélangés avec mes dons d'artiste, tout ça mis ensemble.
Et c'est drôle, pardon, au Québec, on peut pas dire ces choses-là, j'ai l'impression. On peut pas dire, moi, je suis tellement bon, je suis tellement beau, je suis tellement... Parce que c'est une certaine jalousie qui s'installe, qui fait que...
On en reparlera après, mais la peur, elle est phénoménale au Québec.
C'est sûr, au Québec. Mais bon, on fait une pause avec La Canaille et cette chanson qui s'appelle Trop facile. Puis on revient après la pause avec ce thème, Les grandes choses se font facilement.
D'une France plurielle, mettre des blacks, blancs, beurre aux fonctions ministérielles, de paraître moderne, tolérant et progressiste, d'instaurer le Pax, de ne pas nier que ça existe. Et au bout du compte, qui s'écorcouvre au bas de l'échelle, une femme pauvre et lesbienne de couleur ébène. M'arrête un peu chez toi, qui fait la vaisselle? Qui fait la bouffe, les courses, qui sort les poubelles? Qui s'occupe des gosses, qui astique, qui lave les draps, dis-moi. Ça aussi, tu n'y peux rien, c'est à cause de l'État. C'est trop facile, le rôle de la brute épaisse. Le pur, le dur, le vrai caïquetesse. De vouloir tout niquer sous prétexte qu'on est ancien. De l'école de son quartier, la tire de son voisin. De semer la terreur en nombre en bas des bâtiments. Et de pourrir plus qu'elle ne l'est déjà la vie de ses habitants. Et au bout du compte, ça n'est rien d'autre qu'une balle dans le pied. Qui alimente la haine et participe à la saignée. M'arrête un peu depuis quand tu as pas mis les pieds. Combien de temps que tu vis en centre-ville, loin des cages d'escalier. Toi t'as fait des études, t'as la musique, t'as pu construire. Mais qu'est-ce que tu serais devenu si tu n'avais pas pu t'enfuir? C'est trop facile d'avoir le propos radical. L'ambition de changer le monde, d'être anticapital. De parader à chaque manif, de faire le même parcours. Les mêmes slogans, les mêmes pancartes et le même discours. Puis d'ouvrir les pourparlers avec la gauche et se fourvoyer. Pour plus de voix, plus de poids, pour un jour rayonner. Et au bout du compte, t'es pathétique, le poing en l'air. Crier révolution, ne fais pas de toi révolutionnaire. M'arrête un peu, toi dis-moi qu'est-ce que tu fais au fond. À part te regarder le nombril et jouer l'artiste à la con. Qui part au front pendant ce temps, qui milite au quotidien. Qui mène vraiment la lutte et se casse les dents sur le terrain. C'est trop facile de se la raconter poète. De scander des niaiseries et de passer pour un prophète. De nous apprendre la différence entre bien et mal. Ça c'est du lourd et ça c'est immoral. De glorifier la France, bel enfant de la République. Nous rappeler à quel point ce pays est magnifique. Et au bout du compte sous l'esthétique de l'emballage. Un tas de clichés, une imposture de bas étage. M'arrête un peu, s'il te plaît, toi tu te prends pour qui? Avant de cracher sur les autres et d'avancer que c'est tout pourri, hein. Combien d'albums vendus? Combien de concerts? Combien d'écrits à ton actif pour parler en expert?
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Les grandes choses se font facilement ». Moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie de recevoir un jugement négatif des gens parce que j'étais considéré comme un perdant. J'étais sur l'aide sociale. Je l'ai vraiment vu dans ma famille, même les gens proches. C'était vraiment le gros préjugé. Ils n'avaient pas vu que je travaillais à mon œuvre, que je faisais quelque chose pour moi, que j'étais pas paresseux. Je suis vraiment le contraire d'un homme paresseux. Je suis extrêmement discipliné. Mais les gens ont cette idée qu'il faut travailler 8 heures par jour et plus. Alors que si on revient dans les sociétés primitives, qui ont dit primitives, mais en fait, qui sont, à mon avis, beaucoup plus, étaient beaucoup plus balancées, beaucoup plus heureuses que nous, qu'on parle des Amérindiens, qu'on parle des anciennes cultures en Afrique, ou même encore aujourd'hui, en Amérique latine, des gens qui vivent dans la jungle, ces gens ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Ils travaillent pour ramasser de la nourriture. Le reste du temps, ils font l'amour, ils racontent leurs rêves, ils s'amusent, ils sont bien, ils n'ont pas de stress. Ils n'ont pas peur. Nous, je crois, dans notre société, c'est la peur de ne pas avoir assez. On est des écureuils, on fait des réserves. Mais ces gens-là n'en font pas. Pourquoi on ne pourrait pas vivre comme ça, avec l'abondance de l'infini?
Parce que tu as mentionné l'aspect de la peur. Et c'est cette peur qui fait complètement tourner la tête aux individus. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus leur intuition, ils n'écoutent plus leur être, c'est la peur. Et la peur, elle est associée, c'est pas compliqué pour agiter la peur. Tu touches sur l'argent, sur l'aspect matériel. On le voit bien avec Hydro-Québec et le fait d'imposer les compteurs à tous les contribuables québécois, alors que Hydro-Québec fait 1 milliard, je crois, de surplus ou de bénéfices. Donc, les gens, plutôt que de dire « mais si on se met ensemble, on peut demander par exemple un moratoire ou demander un temps supplémentaire pour s'assurer que la technologie est à point », en fait, qu'importe le fond du truc, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la mécanique de la peur dans l'individu et individuellement et collectivement. Et une fois que tu as décrypté ça, là, tu comprends mieux pourquoi on en est arrivé, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale ou pour toutes les guerres, comment les gens ont pu être capables de faire de la délation, comment les gens ont pu être capables de vendre leurs amis ou leurs proches pour sauver leur peau. Qu'importe après, hein, enfant ou pas enfant, c'est très simple. Si tu agites un petit peu la porte, tu appuies sur le bouton de la peur chez les individus et tu peux leur faire faire n'importe quoi. Tu peux leur faire faire voter pour le parti le plus pourri qui soit ou leur faire acheter le produit le plus inutile qui soit. Parce que c'est la peur. La peur, par exemple, par rapport à un produit, c'est « ah oui, mais si je ne l'ai pas, comment je vais paraître vis-à-vis des autres ?» Donc, comme j'ai peur de mal paraître, il va falloir que j'achète le produit. Les publicitaires savent extrêmement bien jouer sur cette fibre-là. Les politiques, tous les systèmes associés au pouvoir connaissent très bien cette psychologie humaine. Et il ne faut pas aller très très loin pour se rendre compte. Il suffit de voir dans son environnement proche comment les gens peuvent faire dans leur froc avec la peur, mais ils seraient prêts à...
Ouais, ça remonte à très longtemps.
Et ça remonte à très très longtemps. Donc c'est juste la conséquence aujourd'hui de générations de générations qui sont passées là avant. Donc c'est à nous aussi de transmuter ça.
La peur du jugement, comme Nicolas disait, de bien-être social. Moi, depuis que je suis toute petite que je chante, je suis une chanteuse, j'ai appris à 5 ans. À 10 ans, j'étais à la télé, je faisais plein de spectacles, et pour moi, ça n'a jamais été du travail. Mais ça rapporte quand même de l'argent. Et en 2003, le corps a lâché. La tête, le corps, tout, j'étais fatiguée. Et là, j'ai eu un burn-out. Et là, le bien-être et tout ça, et tu te dis, waouh! C'est vrai que les gens me voyaient, ben, elle ne travaille plus, et plus, c'est plus une vraie personne. Elle est crochet de la société, puis c'est nous autres qui payent, puis là, là, là. Tu sais, mais c'est vraiment ça. Ensuite, tu te mets à regarder dans les rues, puis tu te dis, ouais, mais celui qui boit sa bière, là, qui est sûr, le bien-être, et moi, qui passe... OK, là, je suis en burn-out, mais je viens d'écrire à peu près une quinzaine de chansons. Pourquoi on n'a pas...
Parce qu'on n'est pas capable dans notre société de nourrir le créateur en nous.
Mais ça, c'est ça,
l'aspect
mais...
création, parce qu'on veut un mouton. On veut un mouton, on veut
tu
pas
veux?
Un créateur.
Tu veux
hein? Non, mais c'est ça.
Non, mais tu dis on. Mais...
La
attention.
Société veut on un mouton.
On personne
le
qui
système.
Mais c'est vrai que pour les artistes, c'est la meilleure voie. Moi, tous mes amis étaient BDistes à l'époque, puis ils m'avaient expliqué comment entrer
mais
sur les
sociales. Mais c'était un choix, ça. Moi, c'était pas un choix. C'était pas un choix. Peut-être que j'aurais dû faire le choix de faire « Hey, je vais faire ça » parce qu'avant, écoute, je me suis brûlée, je travaillais à temps plein, je voyageais pour aller chanter à l'extérieur, tu reviens, après ça, écris tes chansons, va chanter là, plus travail à temps plein, à un moment donné, ton corps suit plus.
Moi, j'ai toujours été à l'écoute justement de mon intuition profonde, puis je me suis toujours positionné au bon endroit. Si je regarde ma vie, je trouve que c'est un chemin parfait. Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'avais ma vocation. J'étais bédéiste. Puis c'était comme, je voyais que ça. Je savais que c'était ça que j'allais faire. Ouais. Même si j'ai fait des études en administration des affaires, pour moi, c'était toujours, ça va m'aider à vendre mes bandes dessinées. Parce que je veux être indépendant, je veux être mon propre éditeur. J'avais déjà ma vision dans ma tête. Donc, pour moi, les grandes choses, c'est c'est la vision que tu as dans ta vie. On a tous une vision, mais pour certains, ils ne savent pas la reconnaître. Mais quand on a une vision, que ce soit de construire une maison, de partir en vacances ou de commencer un projet, il faut la suivre. Et puis, il faut être à l'écoute de l'invisible, Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, il y a toujours des traces dans mes rêves de ce que je devrais faire. Puis des périodes où je faisais pas assez de musique, je faisais des rêves où je chantais pas bien dans mes rêves. Puis ça me disait, gars, là, recommence à pratiquer. Il y a quelque chose qui s'en vient. Puis là, bouf, il y avait un spectacle qui s'en venait. Mais il faut être à l'écoute parce que dans les grandes choses, il y a un aspect qui nous dépasse. Parce que c'est pas juste toi, tu fais partie d'un genre de grand mouvement, il y a des mouvements.
C'est ça, comme on est allé voir Lilou Massé avec Franck qui parlait de co-création. C'est ça aussi, quand on se sent un peu seul, mais d'essayer d'ouvrir pour aller travailler avec d'autres, pour se sentir moins seul aussi, parce que la solitude est un autre point aussi quand on...
Dans l'aspect de la co-création, je pense que l'aspect de la solitude est complètement absorbé et digéré, c'est-à-dire que quand tu es dans la co-création, tu n'es plus justement dans la solitude, dans la peur. Parce que si tu es dans la solitude, tu es dans la division. À partir du moment où tu es dans la co-création, justement, tu as conscience que tu vas être, soit tu l'es directement en relation avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, soit des co-créateurs directs, soit avec des partenaires de vie amoureuse, avec des partenaires de vie professionnelle. Et c'est ça qui fait la chose. Et on n'est pas forcément obligé, tu parlais par rapport à l'invisible Nicolas, tu n'es pas obligé de savoir quel est le visage de la personne qui pense comme toi ou qui fait à peu près les mêmes choses que toi. De toute façon, ça va s'aligner, peut-être que la rencontre se fera et peut-être qu'elle ne se fera pas. Mais au bout du bout, c'est pas important puisque tu es dans les mêmes registres énergétiques ou de vibrations.
Dans les mêmes vibrations, ça porte les projets plus loin. Oui,
c'est ça.
Effectivement.
Il y a un timing toujours. Tu vois, j'ai cherché quelqu'un pour te remplacer, Franck, pendant un mois et demi, ça ne marchait pas. Je ne rencontrais pas des bonnes personnes. Et là, je t'en ai parlé, j'ai trouvé une solution pour t'intégrer à l'émission. Et là, toi, tu as énergétiquement accepté. Et cette semaine-là, 4 personnes m'ont appelé, des femmes super intéressantes. Et dont Léa.
Femme? Attention, hein!
qui est le couronnement de tout ça. Mais ça, c'est, il y a comme une énergie, j'ai compris, tu vois. Je sais que ça fonctionne comme ça. Si la place n'est pas vraiment libre, et ça s'en va, ça fait en amour aussi. Moi, je l'ai vécu un certain temps où j'étais avec une femme qui ne voulait pas que j'aille d'autres femmes dans ma vie. Puis, bien sûr, ça ne rentrait pas. Et si la femme dit oui avec sa bouche, mais dit non avec son énergie, ça repousse.
Oui.
Alors que si elle va dire oui complètement, elle va les amener, elle va aider les femmes à venir vers moi. Et tout est dans cette subtilité. Parce que dans les grandes choses, il y a un élan. Et... J'aime bien le mot fenêtre d'opportunité, on dit ça, window of opportunity. Quand la NASA veut envoyer quelque chose dans l'espace, il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a comme un moment précis où il faut que ça passe. Et puis là, ils peuvent se servir, par exemple, de la force de gravitation, d'une planète pour aller plus vite. Et dans la vie, il y a toujours ça, cette fenêtre d'opportunité. Il y a un moment, c'est pas une minute après, pas une minute avant. C'est exactement là, il faut que tu sois là.
Présent.
Puis là, la magie se passe. Si t'es en retard, il est trop tard. Et moi, je l'ai tellement vu dans ma vie, là, d'être au bon moment. Dont l'exemple que je parlais tantôt de vouloir déménager, c'était la journée même. Là. Mais pour moi, ça faisait partie de ma vie. OK, je l'ai accepté comme étant une preuve d'harmonie, une preuve que j'étais connecté avec ce que je devais vraiment faire. Et c'est de ce modèle-là que j'ai pris quand j'ai déménagé les autres fois. J'ai pas forcé. J'ai attendu d'avoir un rêve qui me disait, bon, déménage, vas-y, c'est le temps.
Leçon aujourd'hui.
Je pense que c'est bien aussi quand même d'initier l'intention. Par exemple, si tu veux changer d'appartement ou avoir un autre lieu, ou qu'importe, que ce soit un appartement, ou que ce soit une voiture, que ce soit l'acquisition d'une nouvelle qualité, c'est bien d'initier le truc, de faire le premier pas.
Oui, ça arrive pas toujours comme ça. Ouais.
C'est juste de faire le premier pas, de dire voilà, je veux ça, je fais le geste en disant ok, c'est ça que je veux. Après, ça se place ou ça se place pas, mais tu as fait ton travail entre guillemets d'humain. Et puis, si tu arrives à, comme tu disais, follow your bliss, si tu arrives à suivre ça là. Après, ça se met en place. Donc, du coup, tu n'es plus dans la notion d'effort caractérisé, volontaire et de vouloir tout casser là, pour que les choses se fassent. Ceci dit, il y a quand même la notion d'effort et puis justement d'adéquation. Je pense à Mohamed Ali, là, ce célèbre boxeur là, qui a eu je ne sais pas combien de victoires. Là, il faisait des efforts, mais il était tellement en adéquation avec entre ce qu'il faisait, ce qu'il était et ses croyances. Et, c'était tellement aligné que ça fait un champion, que ça fait un champion formidable.
Mais ce que tu disais tout à l'heure de faire le premier pas, c'est vrai que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire. Puis il y a un joueur de hockey, je sais que ça fait un peu superflu là, mais qui disait, je sais pas comment le dire en français là. En anglais, c'est « You miss 100% of the shot that you don't take ». Je ne sais pas comment le dire en français.
Ça se traduit
difficilement.
Ils s'arrangeront. Nos auditeurs s'arrangeront.
C'est ça, mais quand que tout à l'heure, j'essaie de mettre ensemble ce que tu as dit et ce que Nicolas a dit, la fenêtre d'opportunité et le premier pas. C'est vrai que pour moi, ça va ensemble.
Bien, quelle intention.
Bien, chers amis, c'est sur ça qu'on finit l'émission. Vous voyez bien qu'on serait parti pour une autre heure, mais on va se restreindre un peu. Et on va vous inviter à écouter d'autres émissions sur notre site internet, propossurlemonheur.com ou en podcast sur Radio H2O. Alors, on vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt.
Beaucoup d'amour.
C'est pas facile, les migrés sont mesquines. C'est pas facile, à dire au revoir, je suis c'est pas facile, les migrés sont mesquines. C'est pas facile, à dire au revoir, la fille. C'est pas facile, هذه الغربة ما في زمري. C'est pas facile, اللي مقري يحصل مسكين. C'est pas facile, هذه الغربة ما في لاوي. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile.